à certains réseaux d'entreprise, le domaine, on va dire, de l'isolation du poste de travail devient de plus en plus flou en ce que le réseau devient de plus en plus interconnectable, on a de plus en plus de manières de s'interconnecter à un réseau. Donc cela veut dire que même sur un réseau personnel ou d'entreprise placé derrière un firewall, maintenant on a des méthodes pour s'introduire physiquement sur le réseau. Donc à ce moment-là, tout poste présent sur le réseau devient quelque part isolé du monde extérieur et se retrouve tout seul devant un monde qui a priori peut lui en vouloir. Donc un poste réseau, que ce soit à la maison ou sur un réseau d'entreprise, et puis le grand dilemme, poste portable qui se balade un peu partout, se connecte à Internet de manière assez erratique, ramène des fichiers à tort et à travers, et reviennent ensuite sur le réseau d'entreprise. Donc tout ça, il faut le protéger. Donc la deuxième partie, l'implémentation. Alors l'implémentation, sa base, c'est comment j'identifie une application. Donc là, c'est très simple, identifier l'application, elle est repérée par son nom, iExplore.exe, son chemin sur le système de fichiers, savoir où elle est, que l'utilisateur ne soit pas amené à lancer une application tierce avec le même nom mais à un autre endroit, et une somme de contrôle MD5 pour éviter que, volontairement ou involontairement, on ne patch l'exécutable en question pour lui faire faire autre chose que ce qu'il est censé faire. La configuration, c'est un jeu de règles par défaut, qui vaut ce qu'il vaut, et une méthode interactive de configuration de l'outil. Donc ça, c'est commun à tous les produits du marché. En gros, on part avec un jeu de règles qui généralement est fermé, et à chaque fois que vous avez une nouvelle application qui demande à se connecter à Internet, vous avez droit à un petit pop-up qui vous dit, voilà, il y a telle application qui veut se connecter à Internet, est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous dites non ? Et toute la configuration se fait comme ça. C'est une configuration qui est relativement simple, mais qui, pour un certain nombre d'utilisateurs dont la volonté est plutôt passive devant l'utilisation de l'ordinateur, devient très vite ennuyeuse. En particulier pendant la phase qui suit l'installation du firewall. Vous installez votre firewall, vous commencez à réutiliser votre ordinateur comme d'habitude, vous allez avoir un pop-up pour le navigateur, un pop-up pour le lecteur de mail, un pop-up pour le lecteur de news, un pop-up pour Word parce que ça lui arrive de temps en temps d'aller chercher des trucs sur le net, etc., Windows Update, etc., etc. Et ça devient très très vite ennuyeux. Par contre, c'est un point positif, c'est que c'est un excellent système de remontée d'alerte. Vous avez une application qui s'installe, type une backdoor, dès qu'elle va accéder, vouloir ouvrir une socket en écoute ou pour émettre des paquets, vous allez avoir un pop-up qui vous dira, voilà, il y a telle application qui veut se connecter au net. Donc là, vous allez dire, ah, ça je connais pas, là il y a un problème. Donc pour bien comprendre comment ça s'intercale, voilà la pile générique Win32. Alors je vais focaliser le discours sur l'environnement Win32. On a des semblants de firewall personnel, par exemple sous Linux, mais bon, ça ne marche pas terriblement bien, et la méthode classique est souvent plus efficace. Donc, les points importants, c'est surtout tout ce qui est API WinSock, donc qui est l'interface qui nous permet d'ouvrir des sockets, donc qui permet la liaison entre la couche réseau et l'espace applicatif. Donc ensuite, vous avez la couche d'abstraction qui vous permet d'accéder au protocole de transport et donc tout ce qui est TCP, UDP, NetBIOS est apparu avec Windows XP les sockets en mode RAW, donc qui sont traités par la PIP native. Donc ensuite la couche IP et enfin la couche N10 qui permet de faire la liaison entre la couche IP et les drivers matériels. Donc c'est l'interface unifiée qui permet à tous les drivers matériels et tout ce qui est carte d'accès distant, donc tout ce qui est VPN, type PPTP, PPP, tous les liens PPPoE, IPsec, etc., ça vient se plugger sur la couche N10 pour que ça soit vu comme des interfaces classiques. Et enfin, le matériel. Donc pour réaliser sa tâche, le firewall personnel va mettre en place deux points de contrôle. Donc le firewall personnel, c'est un applicatif comme les autres. Donc c'est une application qui tourne en tâche de fond, soit comme application, soit comme service, si votre OS le supporte. Donc le premier, c'est un point d'entrée au niveau de l'API WinSock. But de ce point d'entrée, intercepter tous les appels d'ouverture de socket. Donc un programme ouvre une socket, il doit passer d'abord par le firewall personnel pour qu'on vérifie qu'il a bien le droit de le faire, ou lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire, ou demander à l'utilisateur ce qu'on doit faire. Ensuite, beaucoup plus bas, entre la couche NDIS et la couche IP, un deuxième hook qui lui est là pour intercepter les paquets qui entrent et qui sortent et essayer de les relier à un contexte existant. Donc je reçois un paquet du réseau. Est-ce que ce paquet appartient à une socket qui a été autorisée par le firewall? Oui, je le laisse passer. Non, idem, je demande à l'utilisateur, bon ben voilà, tu viens recevoir un paquet, par exemple un ping, qu'est-ce que j'en fais? Et tout est basé là-dessus. Alors sur le marché, je ne vais pas, on va dire, faire de pub ou donner des noms. On a en gros deux classes de produits. Vous avez le produit qu'on appellera simple, voire ultra basique. C'est-à-dire que la seule décision que vous pouvez prendre, c'est oui, non. Telle application veut accéder à Internet, est-ce que vous l'autorisez? Oui, non. Une fois que vous avez répondu oui, l'application en question peut faire ce qu'elle veut. Et des produits un peu plus évolués, mais forcément un peu plus difficiles à prendre en main, où là, vous pouvez commencer à poser des restrictions. Vous pouvez dire, telle application a le droit d'accéder à Internet, oui, mais à destination de tel pool d'adresses, en utilisant tel protocole, et tel jeu de port si le protocole le supporte. Tous les produits du marché que j'ai testés supportent un suivi d'état, au moins pour TCP. Il y en a qui ne suivent pas les états sur UDP. Donc ça permet au firewall, quand il reçoit un paquet, de savoir s'il appartient à une connexion TCP ou UDP, voire ICMP, établie, active. Les fonctionnalités diffèrent énormément entre les produits, donc ça va du très basique oui non. Ensuite, vous avez des firewalls qui vous permettent de proposer des restrictions, mais sur un nombre limité de protocoles. Et enfin, vous pouvez avoir des produits qui vont beaucoup plus loin. Mais grosso modo, on reste sur le triptyque TCP, UDP, ICMP. Et après, pour les autres protocoles, on reste dans un espèce de flou artistique où on ne sait pas comment ils vont être traités, est-ce qu'ils vont être acceptés, est-ce qu'ils ne vont pas être acceptés, est-ce qu'il y a décision de l'utilisateur, comment ça marche. Alors tout ce qui est, par exemple, protocole Gray, donc le protocole 47, qui est utilisé, par exemple, dans PPTP, c'est assez rigolo de regarder comment les firewalls personnels réagissent lorsque vous ouvrez une connexion PPTP. Enfin, aucun des produits que j'ai pu tester ne supporte de suivi de session. Alors, qu'est-ce que c'est le suivi de session? En gros, c'est gérer les protocoles qui sont un peu tordus, comme FTP H323. Donc, FTP, par exemple, fait intervenir une connexion de commande, une connexion de données. Si vous savez faire du suivi de session, vous êtes capable de repérer la connexion de données d'après les paramètres qui ont été glossés dans la connexion de commande. Et donc, en gros, en configuration, vous n'avez qu'à dire « j'autorise le FTP » et le suivi de session fera tout derrière. Là, aucun des produits testés n'est capable de faire ça. Alors, ça implique, ça a une grosse conséquence au niveau de la sécurité. C'est que dès que vous allez utiliser un protocole de ce type, alors dans les proceedings, j'ai mis l'exemple de FTP, par exemple, pour FTP, dès lors que vous autorisez une application à faire du FTP passif, c'est en gros, vous autorisez de se connecter à toute la plage des ports non privilégiés. Donc 1024 et plus. Donc en gros, vous l'autorisez à se connecter à Internet de manière absolument libre. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. En outre, le fait qu'il ne suive pas les sessions a une autre conséquence, c'est qu'il n'est pas capable, lorsqu'il reçoit un message ICMP, de l'associer au flux IP qui a généré l'erreur. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument abominable. Quand on lit les groupes de discussion, donc en sécurité, vous avez toujours quelqu'un qui dit « Oh là là, mon firewall, il m'a alerté, là je viens de recevoir un message ICMP, port unreachable, c'est une alerte, c'est la catastrophe, on me scanne. » Donc en gros, à chaque fois que vous avez un flux qui va générer une erreur, vous prendrez un pop-up et le firewall vous dira qu'on vous attaque. Donc ça, c'est assez problématique. Donc maintenant qu'on a vu l'implémentation, on va voir les limites. On a déjà vu quelques-unes. Alors les limites, on peut les classer, elles sont de deux ordres. Vous avez des limites inhérentes, donc qui sont directement reliées au concept du firewall personnel et à son implémentation, et des limites qui sont indépendantes de lui et qui dépendent du socle applicatif, donc du système d'exploitation sur lequel il est installé. Alors dans les limites inhérentes, on a le fait que ça soit destiné à des utilisateurs a priori non compétents. Alors on a fait le système pour qu'a priori il soit possible de le prendre en main sans connaissance. Dans la pratique, ça ne marche pas. Tous ceux qui lisaient les groupes de news il y a deux ans, quand les connexions ADSL se faisaient avec PTP, la question revenait tous les jours. Il y a mon firewall personnel qui me dit, voilà, il y a une connexion IP protocole 47, qu'est-ce que j'en fais? C'est typiquement le genre de question, l'utilisateur reste, qu'est-ce que je fais? La signalisation est assez peu explicite. C'est-à-dire que malgré le fait que ça soit destiné à des profanes, les boîtes d'alerte que vous recevez sont d'un niveau technique assez soutenu. Il y a des firewalls qui, par exemple, vous signalent des messages ICMP avec leur type et leur code. Ils ne vous donnent même pas la traduction du truc. C'est un peu léger. Et c'est extrêmement rébarbatif. L'utilisateur qui a envie d'être passif, c'est un enfer. Donc ça conduit à l'ouverture complète du firewall pour tout, voire la désactivation. Les jeux de règles par défaut sont généralement assez faibles. Donc on a une alerte de sécurité sur un firewall personnel récemment, sur tout ce qui est gestion de la DNS. Plus anciennement, il y avait tout ce qui était gestion du DHCP. Donc on considérait qu'une connexion, enfin qu'un flux DHCP en UDP, c'était autorisé tant que ça venait du port 67. C'est-à-dire que si vous émettiez un flux UDP depuis le port 67, et ben vous passiez le firewall et vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est à peu près le même concept, mais avec la DNS. Les possibilités de filtrage sont parfois limitées. Donc on l'a vu, il y a des produits qui ne vous permettent pas de filtrer les flux réseau, et d'autres qui permettent de le faire, mais on va dire pas assez, de manière pas assez poussée. Et enfin, la difficulté de limiter certaines applications. Alors l'exemple type, c'est le navigateur. Un navigateur, ça a besoin d'aller sur le web, et ça a besoin de faire UFTP en mode passif. Donc en gros, quand vous autorisez IE, il a le droit de se connecter au port 21 en TCP, au port 80 en TCP, et avant TCP, à tous les ports au-dessus de 1024. En gros, il fait ce qu'il veut. Ensuite, les limites indépendantes. Les limites indépendantes, donc directement liées au système d'exploitation sur lequel il est installé. Ce firewall personnel peut être installé sur un OS qui ne gère pas les droits. Windows 95, Windows 98, Windows Millennium. Sans droit, il n'y a pas de sécurité. Le firewall personnel ne sert à rien. Une backdoor qui s'installe sur un tel système a tous les droits nécessaires pour désactiver le firewall personnel. Ou mettre en place des processus qui lui permettront de passer outre, qu'on va détailler après. Ensuite, vous avez les OS mal configurés. Genre, c'est un Windows NT installé sur une FAT32. Donc Windows NT gère les droits, sauf que s'il est installé sur une FAT32, il n'y a plus de droit d'accès au système de fichiers. Donc on peut par exemple corrompre les fichiers de configuration du firewall personnel. L'utilisation de comptes super utilisateurs. Chez vous, vous installez Windows XP en version Family. Tous les comptes que vous créez ont les droits administrateurs. Par défaut. Donc a priori, tout le monde a tous les droits. Parfois, vous avez des postes sur lesquels est installée une bibliothèque de capture de paquets ou d'injection de paquets. Alors ça, c'est assez rigolo, parce que sous Windows, quand vous installez un outil de type outil de détection d'intrusion, outil de sniffing, vous installez une bibliothèque, en général à WPKR. Donc elle s'installe avec, mais par contre, quand vous désinstallez l'outil, la bibliothèque, elle n'est pas désinstallée. Donc elle est là, et elle est active. Et la WinPCAP sous Windows, quand elle est installée et chargée dans le système, n'importe quel utilisateur peut l'utiliser. C'est pas comme sous Unix, la room des cas, tout le monde y aura. Enfin, tout ce qui est fonctionnalité, entre guillemets, de communication entre les processus. Les systèmes Windows ont une pléthore de systèmes natifs pour faire communiquer les processus entre eux. Hier, on a vu par exemple les liens OLE et les ActiveX qui permettent à un programme quelconque de faire émettre des requêtes par Internet Explorer. On va voir ensuite pourquoi ça peut poser un problème. Donc, pour profiter de ces limitations, on a trois axes d'attaque. Donc, on a d'abord essayé de passer par-dessus le firewall personnel. Comprenez par là, profiter des autorisations présentes pour faire sortir des flux. On a passé en dessous. En effet, on a vu le firewall personnel, son point de contrôle le plus bas n'est pas situé tout en bas, donc on peut passer dessous. Et enfin, si on a les droits suffisants, attaquer le firewall personnel lui-même en tant qu'applicatif éventuellement vulnérable. Les trois méthodes sont exploitables et ont été exploitées. Donc passer au-dessus, c'est ce que Nicolas Grégoire nous a présenté hier avec JAB. C'est un exemple d'exploitation des autorisations qui sont dans un firewall personnel. Donc en gros, le principe, c'est d'utiliser une application autorisée par le firewall personnel et lui faire émettre des requêtes dont on récupérera le résultat. Donc vous avez, pour faire ça, vous avez tout ce qui est utilisation de macro et d'applets JScript, VBScript, ActiveX. Par exemple, on peut lancer des connexions depuis Word. Ce genre de choses-là. On a vu combien c'était facile de faire exécuter du code depuis un document Word. Donc l'utilisation des liens OLE et ActiveX. Donc ça, c'est ce que je considère comme être la méthode la plus simple à mettre en œuvre et qui apporte, on va dire, le meilleur rapport simplicité-efficacité. Surtout quand on sait que Internet Explorer étant présent sur la majorité des installations et étant le navigateur par défaut, il est autorisé avec les droits qui vont bien, c'est-à-dire la possibilité de faire n'importe quoi. Et enfin, une petite feature qui est apparue il n'y a pas longtemps, qui est Create Remote Thread, qui permet en fait à une application de créer des threads d'une autre. Donc pour ça, il faut juste avoir un petit privilège, qui est le privilège des logs, qui est attribué par défaut à tout compte utilisateur, même non privilégié, et qui en gros, globalement, vous permet de créer un système de plugin pour n'importe quelle application que vous avez lancée, et de lui faire charger des DLL à la volée, surcharger ses méthodes, en gros, pour lui faire exécuter du code. Alors vous avez une littérature assez vaste sur le sujet qui est en référence dans les proceedings. C'est très technique, par contre c'est très très violent au niveau résultat. Vous arrivez carrément à prendre la main sur une application, à lui faire ce que vous voulez. Ce qui remet complètement en cause le postulat de base du firewall personnel, à savoir quand j'autorise une application, je sais ce qu'elle fait. Donc le firewall de type oui-non ne sert plus à rien. Grosso modo, ce type de méthode, c'est les méthodes les plus efficaces et c'est aussi les méthodes les plus difficiles à contrer. On a vu hier que si par exemple on veut empêcher les communications OLE avec un outil comme Internet Explorer, on a de grandes chances de rendre le système non opérationnel. De même, la directive Create Remote Thread, permissions qui sont associées à l'appel de ce système sont en fait gérées par le développeur de l'application. Et en gros, comme ça a paru assez récemment, il y a énormément d'applications sur le marché qui n'intègrent pas justement la gestion des permissions associées à cet appel et qui les ont grandes ouvertes. Passer en dessous. Donc pour passer en dessous, j'ai pris l'exemple de la bibliothèque d'injection et de capture de paquets WinPK. Donc elle fait les deux, capture et injection de paquets. Donc globalement, elle vient se placer complètement en parallèle de la pile Windows classique, Donc ça, c'est un schéma très, enfin, c'est très schématique. En réalité, elle vient même s'ancrer légèrement dans la couche N10. Donc elle descend un petit peu plus bas. Donc elle vous permet, vous avez toute une interface de programmation, plus ou moins bas niveau, pour faire générer des trames Ethernet, enfin des trames Ethernet si vous êtes connecté par Internet, mais plus globalement, n'importe quel type de données directement au niveau 2, donc en passant outre les deux points de contrôle du firewall personnel. D'abord parce que vous posez directement avec la couche N10, donc le haut du bas, vous n'y passe plus, et ensuite parce qu'elle a sa propre API de communication avec vos applications. Donc vous ne passez plus par la couche WinSock. Et c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Dans Windows XP, vous avez des RAW sockets. Les RAW sockets sont intégrés à la pile. La WinPCAP, c'est quelque chose de complètement parallèle. Donc par exemple, vous avez des firewalls qui vous, personnels qui vous disent « Ouais, passer en dessous avec nous, c'est pas possible parce qu'on contrôle les RAW sockets. » En fait, ils ne contrôlent que le système de RAW sockets qui est inclus dans la pile. Si vous installez la WinPCAP, vous shuntez complètement. Alors ça vous permet d'injecter ce que vous voulez au plus bas niveau, donc des paquets valides ou non. La technique la plus couramment utilisée, c'est injecter par exemple des paquets TCP avec des numéros hors séquence pour les noyer dans des flux valides. Et ensuite, vous utilisez la capture de trame pour récupérer les informations de l'autre côté. Là, idem, comment on masque ce type de trafic ? Eh bien, on fait en sorte de générer du trafic que la pile IP va refuser. Donc, par exemple, générer des paquets TCP avec des numéros de séquence non valides qui ont toutes les caractéristiques pour appartenir à une connexion établie. Donc, ça va passer le premier hook et ça va se faire jeter entre les deux, donc ça n'atterrira jamais au dernier. Et votre trafic ira à l'application qui est branché au bout de la WinPCAP. Donc ça, c'est extrêmement efficace aussi. Le seul hic, c'est que à un moment ou à un autre, il faut installer la bibliothèque de capture et d'injection. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir les droits d'administration sur la machine pour l'installer et la charger. À noter que ça se fait sans avoir besoin de rebooter quel que soit l'OS. Enfin, attaquer l'applicatif lui-même Firewall. Donc, l'applicatif lui-même ou sa configuration. Donc, le plus simple étant essayer d'exploiter les jeux de règles faibles. Donc, par exemple, utiliser l'histoire des flux DHCP ou des flux DNS. On peut pousser plus loin. Vous avez un système de fichiers qui ne gère pas les droits ou qui n'est pas correctement configuré. Vous pouvez altérer la configuration du firewall personnel. Seulement, la configuration du firewall personnel, elle est stockée dans un fichier. Rien ne vous empêche, par exemple, d'aller écraser l'explore.exe, calculer sa somme MD5 et aller la remplacer dans le fichier de configuration. Et ça marche. Vous avez l'arrêt du processus. Quoi de plus simple pour contourner un firewall personnel que s'en débarrasser complètement? Vous avez l'exemple du virus Bugbear, qui, quand il arrive, est capable de désactiver une dizaine d'antivirus et de nos trois firewalls personnels. Enfin, exploitation du logiciel en lui-même. Il ne faut jamais oublier qu'un firewall personnel, ça reste un applicatif qui lui-même peut avoir des failles, et dans la mesure où il tourne avec les droits administrateurs, puisqu'il a besoin d'accéder à des couches assez basses, vous pouvez en profiter, s'il y a une vulnérabilité, pour exécuter du code. CF a un advisory assez récent qui permet d'exécuter du code sur n'importe quelle machine protégée avec un logiciel du marché. La plupart de ces attaques sont possibles et utilisées sur des OS faibles, donc 95, 98, millénaire, et sur des systèmes mal configurés. Donc par exemple, si vous achetiez un serveur du plus grand constructeur de PC au monde il y a 3 ans, il vous arrivait avec NT installé sur une FAT16. Si vous faites une mise à jour d'un OS installé sur une FAT32 vers XP, par exemple, qui gère la FAT32, vous arriverez avec un système installé sur une FAT32, donc sans gestion d'accès aux fichiers. Ou alors, vous avez des comptes administrateurs. Et là, comme tout le monde le sait, c'est mal. Donc maintenant, on va quand même essayer de terminer sur une note un peu positive. Essayer de voir comment on peut rendre ça efficace. Parce que, bon, même si là, j'ai mis en exergue beaucoup de limites, si c'est mis en œuvre correctement, ça reste quand même un outil qui apporte une certaine efficacité et qui, en complément d'autres outils mis sur le réseau, vous permet d'améliorer votre niveau de sécurité. Alors l'implémentation correcte, ça va être sur trois axes. Donc on a vu des limites indépendantes, et bien c'est essayer de les minimiser. Essayer de minimiser les limites inhérentes à l'outil, donc en choisissant son outil de manière correcte, et amener une politique de sécurité cohérente à l'ensemble du système. Donc c'est un travail qui part un peu dans tous les sens. Donc éviter les limites indépendantes. Donc en gros, choisir un OS qui fait de la sécurité. Donc ça veut dire utiliser un vrai OS, c'est-à-dire quelque chose qui gère la notion de droit, donc non seulement d'accès au système de fichiers, mais aussi entre les processus eux-mêmes, qui a un bon cloisonnement. Donc en gros, ça veut dire que tout ce qui est Windows 95, 98, Millennium, si vous voulez de la sécurité, il faut tous les lire. Là, il n'y a aucune pitié à avoir, ce n'est pas sécurisable. Les installer et les configurer correctement, ça coûte des sources. Configurer l'attribution des privilèges. NTFS, par exemple, nous offre un système d'ACL qui est quand même assez pointu. C'est dommage de ne pas en profiter. Pareil, la gestion des droits utilisateurs est poussée aussi. C'est dommage de ne pas en profiter non plus. Donc par exemple, on l'a vu, si on veut éviter certaines failles, supprimer les droits de debug aux utilisateurs normaux. En général, ils n'en ont pas besoin. Limiter les bibliothèques et les applications disponibles. Alors les bibliothèques, pourquoi? Bah, pour ne pas laisser traîner une backup sur un poste parce qu'un jour on a installé un sniffer dessus. Et les applications. Bien choisir ces applications, c'est important. Donc par exemple, un poste avec Internet Explorer autorisé et actif, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Et enfin, donc limiter les applications trop communicantes, c'est tout ce qui est Internet Explorer, etc. Donc ça, c'est un travail en amont du firewall sur le socle applicatif qui est extrêmement important. Si ce travail n'est pas fait, le firewall ne sert à rien. Éviter les limites inhérentes. Éviter les limites inhérentes, en gros, ça veut dire choisissez votre outil. Donc le choix d'un outil, ça se fait par rapport à ses besoins et par rapport à ses besoins en termes de, on va dire, de fonctionnalité, en termes de convivialité et surtout en termes de besoins de sécurité. Donc éviter les outils simplissimes. Ok, c'est facile à configurer, mais franchement, le niveau de sécurité qui est associé, c'est un peu du vent. Bien configurer son outil, si on a un outil qui a des fonctionnalités, autant s'en servir, donc bien le configurer, et surtout ne pas croire le blabla marketing. Dans son introduction, Frédéric Reynal vous a fait un blabla, vous a montré un blabla marketing d'antivirus. Vous pouvez tout à fait le transposer sur les firewalls personnels. Les firewalls personnels vous garantissent une protection totale et super efficace contre 100% des backdoors du marché, sauf 99% d'entre eux. Donc il faut être bien réaliste, le discours marketing associé au firewall personnel, c'est du pipeau complet. J'ai vu une présentation dans laquelle j'ai vu un commercial dire que le firewall personnel vous protégeait contre l'IP spoofing. Ça fait doucement rigoler. De même, ne pas affoler quand on voit les pop-up arriver à répétition. Parce que ça fait partie du discours marketing que de rendre l'utilisateur un peu plus suspicieux. L'utilisateur, il a installé un firewall. C'est vrai que ça le conforte dans son idée si son firewall lui balance 3 pop-up par jour en lui disant qu'il a bloqué des attaques. Que ça en soit ou que ça en soit pas, c'est pas le problème. Il faut qu'il se sente attaqué, il faut qu'il se sente en insécurité permanente pour voir acheter la version payante supérieure qui a les super fonctionnalités qui vont bien pour le rendre encore plus sûr. Donc il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça parce que ça c'est vraiment un poison et ça tue la sécurité. Donc ça c'est un travail sur le dispositif de protection qui, on va dire, intervient dans le choix de l'outil et dans sa configuration. Enfin, généraliser sa politique de sécurité. Le firewall personnel à lui tout seul ne peut pas garantir la sécurité du poste. Ça se complète, par exemple, d'un antivirus. Le firewall personnel est censé empêcher les backdoors d'accéder au net. C'est quand même vachement mieux si on arrive à limiter l'installation des backdoors elles-mêmes. Ça, vous allez le faire par un dispositif de type antivirus. Donc, il faut en mettre un. Le firewall personnel ne dispense pas de l'antivirus. Ça veut dire répéter le filtrage que vous avez mis en place sur vos éléments réseau actifs qui vont se trouver en amont. Ce n'est pas parce que vous avez dit que tel poste ne pourra accéder qu'au port 80 TCP que le routeur qui lui sert de passerelle doit être complètement ouvert. Parce que si vous avez une backdoor qui est capable de passer en dessous du firewall, vous avez tout perdu. Mettre en place des antivirus, mettre en place des filtres applicatifs. En effet, si on est capable, de, par exemple, de profiter d'Internet Explorer pour sortir des données, si vous n'avez pas de proxy qui est capable de faire un minimum d'études sur le trafic qui passe, ben vous n'aurez pas de protection non plus. Donc vous devez pousser votre politique de sécurité, on va dire, jusqu'aux limites du raisonnable. Donc ça veut dire travailler en aval sur le réseau, sur les autres équipements. La logique qui sous-tend ça, c'est quelque chose qu'on oublie, qui a tendance à être un peu oublié, c'est ce qu'on appelle l'escalade de privilèges. C'est-à-dire que quand vous faites pirater une machine sur votre réseau, le pirate ne s'arrête pas là. Il continue et il avance. Donc les points de sécurité ne peuvent pas être uniques et tous concentrés au même endroit. Parce que le jour où il y a quelqu'un qui va rentrer, et la question c'est bien ça, c'est le jour où. C'est pas est-ce que je vais, non, c'est le jour où. Donc le jour où il y a quelqu'un qui va rentrer, s'il a passé le niveau de sécurité, après il fait ce qu'il veut. Et enfin, c'est gérer tous les problèmes utilisateurs. Donc communément appelé ce qui se passe entre la chaise et le clavier. Ça veut dire sensibiliser ses utilisateurs et les former. Ça dans un contexte domestique, bon, on va faire avec, c'est pas possible, mais dans un contexte d'entreprise. Si vos utilisateurs ne sont pas formés à la sécurité, vous pourrez en mettre autant que vous voulez, de toute manière, vous perdrez à la fin. Donc pour conclure, le concept du firewall personnel n'en reste pas moins un concept séduisant et efficace si on met autour des conditions favorables. C'est une brique comme une autre dans la sécurité du système d'information qui n'est pas suffisante à garantir la sécurité du système. Par contre, elle contribue à l'améliorer. Donc, à utiliser comme outil complémentaire et pas comme seul outil de protection. Voilà. Si vous avez des questions.
Il manque quelques questions avant la pause, peut-être.
Bon, j'en ai testé à peu près une dizaine. Donc c'est zone alarme, les deux versions. Ce qui est tout ce qui est Team Personal Firewall, Kernio, Outpost. En gros, à chaque fois, la version payante et la version gratuite.
Les gars, vous avez
moins de trucs ? Disons qu'il y en a qui sont. Que moi je préfère par rapport aux autres.
Ouais, il y a plus de polémique que marketing, il faudra peut-être voir personnellement Cédric pour avoir ce qu'on a dit.
Mais à la pause, je vous dirai ce que j'aime pas et ce que je préfère, mais c'est pas le lieu pour le faire. Le seul intérêt au niveau domestique, c'est, on va dire, fermer les points d'accès évidents. Quand vous installez un firewall personnel, il arrive toujours en configuration fermée, donc ça vous permet par exemple de mettre fin au système de messaging, tout ce qui est vos accès NetBIOS, vos accès Universal PNP, ce genre de choses. Donc ça a quand même un bénéfice. Mais malgré tout, c'est pas comme ça que c'est vendu. Quand on vous demande le firewall personnel, on vous propose, on vous dit c'est pour vous protéger des backdoors. Et effectivement, sur un réseau domestique où on va essayer de placer des produits type grand public, donc dans les produits Microsoft, c'est Millennium, bon, ceux d'avant c'est moins courant, ou XP Family, ça ne sert, donc une backdoor, ça ne sert à rien. Alors au niveau entreprise, je considère que le niveau entreprise, c'est effectivement un milieu qui est beaucoup mieux maîtrisé dans la mesure où il y a une équipe qui est là pour faire l'administration et qui est censée faire en sorte que les OS soient des OS avec des fonctions de sécurité, qui soient installés correctement, que les comptes soient mis en place correctement. Et là, on peut commencer à avoir des choses. Maintenant, ça, c'est une version, je vais dire, un peu idyllique de la chose. C'est que normalement, ça devrait être comme ça. Dans la pratique, les parcs de postes de travail sont quand même très hétéroclites. On ne peut pas racheter un ordinateur tous les 2 ans parce qu'il y a une nouvelle version de Windows qui sort. C'est quand même... Donc, c'est un milieu plus propice à ce que le firewall personnel serve à quelque chose. Maintenant, encore faut-il avoir mis en place la politique de sécurité et l'avoir implémentée. Alors, il y a des offres professionnelles. Donc, par exemple, vous allez chez Zone Alarm, Zone Alarm est une version professionnelle avec un système qui ressemblerait plus à un déploiement d'agents, un peu comme ça se fait pour les antivirus d'entreprise, où vous avez un petit Zone Alarm sur chaque poste qui est configuré de manière centralisée sur un serveur. Donc vous avez par exemple Zone Alarm qui fait ça, vous avez Kerio qui le fait aussi, et vous avez The Green Go qui est un produit français.
Juste un petit point quand même pour recadrer, pour explorer une grosse parano, c'est au niveau des. Ça évite quand même au niveau domestique, ça évite quand même on va dire, les backdoors les plus classiques. Quoi. Donc pour l'utilisateur lambda, c'est pas mal, ça va éviter quand même tous les petits rigolos avec des choses même plutôt simples, mais des BO ou des. Du sub-7, ce qui est quand même non négligeable. Donc ça apporte quand même un plus, quoi. Mais c'est ce que disait Cédric, il ne faut pas penser non plus que c'est l'ultime outil, quoi. Si quelqu'un veut vraiment rentrer, il y arrivera, et sans trop d'efforts. Mais c'est quand même un plus, quoi. Et il faut quand même recommander quand même l'usage d'un firewall perso au niveau domestique.
Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas en utiliser. Je dirais même qu'au niveau domestique, leur utilisation, elle est clairement obligatoire. Ne serait-ce que pour pas avoir votre petite fenêtre qui s'ouvre de temps en temps avec, voilà, vous avez 50% sur du Viagra. Ne serait-ce que si ça peut vous éviter ça, déjà c'est sympa.
Il y a, je crois qu'il y a quelques temps, un an, je crois qu'on avait fait des annonces de firewall embarqué directement sur les chipsets à présent, avec la possibilité de régler tous ces piloter sur des firewalls distribués, sur tous les postes de travail, depuis une console. Est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu ça?
Pas du tout.
Parce que c'est pas vraiment un personnage de rôle, mais on est quand même dans les règles de sécurité appliquées.
Enfin, appliquées sur les postes de travail. Tout à fait. J'ai pas exploré cette la voie, on va dire, matérielle très bien.
Ouais.
Alors, sous Linux, vous avez, donc avec Netfilter, niveau 4, vous avez un module qui s'appelle, enfin une concordance qui s'appelle Honor. Et Honor vous permet de filtrer du trafic en fonction de l'utilisateur, donc l'UID et le GID qui ont lancé l'application, le PID et le SID de l'application. Et donc récemment a été rajouté un match qui est Honor CMD et qui est censé matcher le nom de l'application. Le problème, c'est qu'il ne fait que matcher le nom de l'application. c'est en gros, il ne match que la commande que vous avez lancée. Donc ce qui veut dire que, en gros, si vous m'interdisez par exemple de faire du SSH, mais que vous m'autorisez à faire du ping, je fais un lien symbolique vers le binaire SSH qui s'appelle ping, et ça passe. Donc, bon, il y a des pistes pour l'améliorer, mais le... Donc c'est pas dans le... On va dire dans le, l'objet de la chose. On a des méthodes, enfin, sous Linux, on a des méthodes autres pour contraindre ce type de choses, en particulièrement, par exemple, du contrôle d'accès au niveau du noyau. Donc si vous installez des patchs comme Leeds ou GR Security, vous pouvez mettre des contraintes fortes sur l'accès au réseau qui vous évite de passer par un outil de type firewall personnel ou équivalent. Et c'est vrai que la solution qui est proposée par le noyau 2.4, donc avec la concordance honneur, pour faire ça, ça sert à rien. Bon, par contre, le module peut servir, c'est sympa, par exemple, de pouvoir filtrer les flux, ne serait-ce que sur l'UID de la commande. Si vous avez une application qui tourne en utilisateur restreint, vous pouvez utiliser le fait que c'est l'utilisateur NMD qui a lancé le flux, et ça vous permet de contraindre de manière plus fine.
On va s'arrêter là, vous laissez un peu de temps pour la pause et de retour pour nous.